Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Learning Technology France est l'événement numéro 1 en Europe dans le domaine des technologies au service de la formation. L'édition de février 2020 a réuni 7000 professionnels du e-learning, de la formation, des ressources humaines et de la gestion des talents du monde entier. Pour en savoir plus, www.learningtechnologiefrance.com. Je suis Rémi Chal, directeur général d'EdTech France, l'association des entreprises qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Bienvenue dans ce nouveau numéro exceptionnel du podcast EdTech France, enregistré en direct live depuis le salon Learning Technologies à Paris, porte de Versailles. On est ici au cœur de l'écosystème de la formation professionnelle avec les acteurs, les entreprises qui innovent et inventent le future of work. Dans un monde sans cesse changeant, les entreprises doivent en permanence se renouveler et former leurs salariés à de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. Elles sont contraintes de se transformer peu à peu en entreprises apprenantes. Mais la transition n'est pas toujours si facile. Eh bien, pour en parler, je reçois deux spécialistes. J'ai l'honneur d'avoir face à moi Antoine Amiel de Learn Assembly. Bonjour Antoine.
Bonjour. Un spécial dédicace pour le Future of Work. J'ai beaucoup aimé ton
Future of Work. Donc Learn Assembly, on va en parler, qui a mission de rendre les entreprises apprenantes justement et de développer l'employabilité des collaborateurs. Et Thibaut Galli de Jean, comment vas-tu Thibaut?
Super bien. C'est,
on a ressenti une grande émotion en se voyant ce matin avec Thibaut.
Exactement.
Parce que, voilà, parce qu'on se suit, on se tweet, on se retweet, on se like, mais on ne s'était jamais vu en vrai.
Merci Rémi, du coup, pour cette expérience formidable, exceptionnelle.
Voilà, donc attention à maîtriser ton émotion, parce qu'on va essayer de dire des choses intéressantes. Donc, tu es responsable du développement des formations digitales chez
Le Roi Merlin.
Alors, exactement.
C'est presque ça. Je suis en charge de la cellule EdTech, en fait, et mon boulot, c'est très précisément de mettre à disposition de l'entreprise les meilleures solutions pour répondre à nos enjeux, et notamment, et c'est le sujet du podcast du jour, de l'entreprise apprenante.
Et c'est vrai que tu es un des rares à avoir dans ton intitulé de poste le mot EdTech. Et ça, quand j'avais vu ça, ça m'avait touché.
Non, écoute, c'est vrai. Je pense que je peux mourir.
Fais-le en vrai. Voilà, touche-moi en vrai.
Attends, bouge pour faire la photo.
Ça va loin. Ce podcast va loin. Vous pourrez retrouver toutes ces photos sur les réseaux sociaux, évidemment. Et c'est un choix de ta part d'avoir mis EdTech ou c'est l'entreprise qui est.
J'ai voulu ça justement pour mettre le bon nom sur ce qu'on faisait. Notre boulot, c'est vraiment de mettre à disposition d'entreprises, d'assurer à l'entreprise d'avoir les meilleures technos de l'éducation possible dans un contexte d'entreprise.
Bien sûr. Ouais.
Et c'est ce qu'on fait, c'est la réalité de notre boulot. Et c'est pour ça que je me suis permis de reprendre avec toute l'humilité qui est la mienne face au DG de EdTech France.
Mais pas du tout. C'est moi qui suis humble face à vous. C'est vous les acteurs de terrain. Alors, le Roi Merlin, on ne présente pas l'entreprise, tout le monde la connaît. Learn Assembly, peut-être. Antoine.
Je me demande de présenter Learn Assembly. Pourquoi est-ce qu'on présenterait plus le Roi Merlin que Learn Assembly?
Bon, ça viendra. C'est juste quelques semaines. Voilà. Mais alors, dis-nous un petit peu ce que fait Learn Assembly. Moi, je connais évidemment, mais ceux qui nous écoutent,
ouais,
peut-être pas.
Quelques mots pour présenter Learn Assembly. Donc, nous, on est une entreprise qui a 6 ans maintenant et on n'est ni une start-up ni un cabinet de conseil. On a justement un positionnement très hybride, une activité très hybride parce que. On se rend compte qu'il faut s'appuyer sur des technologies, mais que les technologies ne suffisent pas à transformer des cultures. Et en fait, au début de Learn Assembly, on a commencé par faire du contenu. On a fait beaucoup de vidéos pédagogiques, de digital learning, on avait une équipe de production, on était presque industriel dans la production de contenu. Et en fait, de plus en plus, nos clients nous disaient « vous faites des contenus, tout ça c'est super ». Mais en fait, le sujet, c'est comment on fait venir les gens sur ces contenus et ensuite, comment on s'assure qu'il y a de l'impact en termes d'employabilité et de compétences. Et donc, on s'est mis à faire du conseil sans même s'en rendre compte parce que nos clients nous amenaient à ça, en fait, en disant « ok, des vidéos, c'est super, mais en fait, je peux en trouver partout, je vais pouvoir les produire moi-même, les coûts baissent, etc. Et » et donc, on est passé du contenu au contenant. Ouais. Donc, pas seulement de produire les contenus, mais de réfléchir à comment on les déploie, comment on engage les gens, comment on s'intègre au quotidien des salariés, comment on donne envie d'apprendre, comment on développe l'apprenance. Et donc, c'est ce qui nous a amené à évoluer. Et donc, aujourd'hui, on est une société qui travaille justement sur le développement de la culture de l'apprentissage dans les organisations, comment on aide les gens à apprendre. On fait du conseil, on design des parcours et on a développé une technologie qui s'appelle Learning Boost et qui permet d'analyser et de développer la capacité d'apprentissage des individus. Et donc, on a cet outil de diagnostic et d'aide, de coaching qui se met au service de notre activité de conseil.
Okay. Learning Boost. Et alors, justement, on va commencer par cette question centrale. L'entreprise apprenante, c'est un terme aujourd'hui qu'on entend, qui est relativement récent. Antoine, c'est quoi une entreprise apprenante?
Alors, je vais essayer d'être synthétique puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. En fait, déjà, ce qui est intéressant, c'est que le terme n'est pas du tout récent. En fait, c'est très vieux, l'entreprise apprenante.
D'accord.
Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'on en parle autant maintenant?
Ouais.
Pourquoi est-ce que ça revient à la mode autant? Il y a plusieurs raisons à ça. Il y en a une, évidemment, qui est que on connaît un peu tous les poncifs sur les métiers qui se transforment, l'IA, on ne connaît pas les métiers qui existeront dans 20 ans,
etc. Oui, est-ce que c'est 80%, 63%? Voilà. Tout le monde se bat sur les pourcentages.
Voilà, tout le monde se bat pour savoir exactement. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une beaucoup plus d'incertitude sur l'évolution des métiers et la nécessité de se transformer de manière plus forte. Les business models des entreprises un peu traditionnelles, les réseaux d'agences, les réseaux de distribution, les business models dans l'assurance, dans l'industrie, enfin, on voit que tous les métiers sont transformés et donc il va falloir que à tous les niveaux, les gens réapprennent de nouvelles compétences et réapprennent à apprendre. Donc, c'est pour ça que ça revient beaucoup. Après, il y a un effet de mode et comme toujours dans le monde du digital et de l'innovation, il y a des termes qui sont des termes pleins de promesses. Qui font un peu fantasmer.
Oui.
Et donc tout le monde se raccroche à ça, on ne sait plus très bien finalement de quoi on parle à la fin. Donc voilà, donc l'entreprise apprenante, c'est pour ça que ça revient beaucoup à la mode aujourd'hui.
Oui.
Et après, l'entreprise apprenante, c'est pas que la formation en fait, c'est un sujet de culture, c'est un sujet de management, de leadership, c'est un sujet de vision.
Oui.
Donc on pourra en reparler plus en détail, mais ça ne se limite pas à en fait faire des jolies formations. Mmh. C'est un changement de culture et un changement de mindset qui est énorme et qui touche toute l'entreprise. Et donc c'est comment on rend une entreprise capable de prendre du recul sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle vit,
oui.
Capable d'apprendre de ses propres actions et d'avoir une vision partagée. Donc c'est beaucoup de choses d'entreprise apprenante et voilà, c'est un sujet énorme.
Et ce qui est rassurant, c'est que c'est un terme français. On ne dit pas la learning company. Non, mais c'est vrai. C'est parce que c'est un terme ancien, peut-être, d'ailleurs, qu'il est en français.
C'est peut-être parce qu'on a trouvé une façon facile de le traduire en français.
Et élégante. Et sexy.
Élégante, ouais.
Comment on dit en anglais, d'ailleurs? C'est un conseil qui existe, d'ailleurs?
Oui, learning organizations, ça se dit. D'ailleurs, le terme vient de Peter Senge, qui est américain, quand même. Hein.
D'accord. Bon. Voilà. Bon. Mais on a traduit, c'est bien. Ça fera plaisir à nos amis québécois. Thibaut, chez Leroy Merlin, on partage cette vision-là de l'entreprise apprenante?
Alors, on partage cette vision dès le mot vision, finalement, parce que vision, c'est le nom d'un processus qui est assez ancien dans l'entreprise et qui permet à chaque collaborateur d'écrire, en fait, l'avenir de l'entreprise à 10 ans.
D'accord.
Donc, c'est quelque chose qui explique que... Et je suis très en phase avec ce que disait Antoine tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, l'organisation apprenante, l'entreprise apprenante, ça ne se déclare pas, ça ne se proclame pas, ce n'est pas un objectif d'entreprise en soi. Il y a un terreau, il y a une culture d'entreprise en fait, qui est à l'origine de ce phénomène, et notamment chez Leroy Merlin, parce qu'on est dans cette culture où chaque collaborateur a son mot à dire sur la stratégie d'une entreprise et écrit lui-même, tu parlais du futur du travail, je vais le franciser puisque...
Tu as raison.
Écrit l'avenir même de l'entreprise, en fait. Et dans le cadre du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, il partage son savoir, on partage tous ensemble, l'entreprise apprend d'elle-même et permet à chaque collaborateur de partager son savoir.
D'accord.
Notre conviction, vraiment, et on a senti ça il y a quelques années quand on a mis en place ces outils, ces technologies qui seules sont inutiles, voire néfastes même à l'apprentissage, peuvent être néfastes parfois. Ce besoin qu'avaient nos collaborateurs de participer, de créer du contenu très vite. On a sorti des outils pour consommer et leur demande, ça a été de créer. Donnez-nous des outils pour créer. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de la partie mobile, plus de la moitié des capsules ont été créées par nos collaborateurs parce qu'on n'est pas omnipotent. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas adresser tous les sujets au temps de la formation. Et donc, on a essayé de développer les bonnes solutions pour leur permettre de créer et de partager ce savoir qu'ils avaient, en s'insérant dans avec une deuxième tendance qui était assez forte, qui était aussi de s'insérer dans les usages des équipes et de faire en sorte de concevoir des modalités ou de leur mettre à disposition les modalités qui allaient favoriser l'apprenance qu'évoquait Antoine tout à l'heure, en s'insérant dans des notions de timing ou d'accessibilité au contenu qui correspondaient à leurs besoins, à leurs attentes, à leur réalité d'usage.
C'est combien de collaborateurs chez Leroy Merlin ?
23 000 collaborateurs.
23 000 collaborateurs. Et on arrive à embarquer tout le monde comme ça dans ce processus de création, de contenu de... Comment ça se passe, une telle machine ?
Alors, comment ça se passe ? Alors, on arrive à embarquer tout le monde déjà sur la consommation du contenu. On est bien sûr sur quelque chose qui est pour tous. Après, on va retomber effectivement dans les KPI. Et puis, je vois que tu viens chercher vraiment le point précis. On retombe sur les KPI du marché qu'on peut retrouver sur les niveaux d'engagement qu'on peut avoir sur Twitter, sur des réseaux sociaux. Mmh. Effectivement, tout le monde n'a pas forcément envie de partager son savoir. Mais on donne les moyens à ceux qui le souhaitent aujourd'hui de partager son savoir. On rend les modalités accessibles. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a été très surpris. Vraiment, c'était une surprise pour nous. Quand on a sorti un outil pour apprendre, ils nous ont demandé un outil pour créer du savoir.
D'accord.
Ça a été la demande quelques mois après, quand on a sorti l'application de mobile learning sur laquelle on bossait. Ils nous ont dit, oui, mais moi, je voudrais faire un truc sur le portail... Ouais. Close-up, sur le marché, voilà. Et très vite, on a eu cette demande, mais moi aussi, j'ai envie de faire. Et c'est vrai que ça a été l'opportunité pour nous de revoir la façon de concevoir même la formation dans l'entreprise.
Ça ne descend pas, en fait, ça remonte et ça se partage. Ça,
le phénomène d'accélération qu'on évoquait tout à l'heure et de transformation très forte, ce qui fait qu'on revient à cette notion d'organisation apprenante, c'est qu'il y a 10 ans, les directions de formation, on les percevait comme un budget, des intermédiaires, si tu veux, avec des prestataires qui allaient créer du contenu. De plus en plus, aujourd'hui, je pense que le métier de demain sur la formation, ou qui est en train de se transformer, c'est celui de chef de projet, qui n'est pas le sachant, qui va orchestrer, qui va devenir pour moi un animateur de communauté d'apprentissage, un animateur, un modérateur de contenu. D'accord. Plus, parce qu'on est face à plein de collaborateurs qui ont plein de besoins. On ne peut pas adresser une direction formation, tu vois. On ne peut pas adresser 100% des besoins. Mmh. Et donc, il y a aussi, pour nous, l'opportunité de donner un outil à nos collaborateurs qui vont pouvoir formaliser leur savoir. On va créer une grande bibliothèque de savoir. Ouais. Donc, c'est marrant parce qu'on revient des concepts de knowledge management, mais qui, s'ils n'ont pas 20 ans, ils ont au moins 20 ans. Et de dire, on va créer quelque chose ensemble autour du savoir et on va créer un peu cet espace de stockage, ce repository, si tu me permets cet anglicisme, du savoir pour tous. Et de donner la possibilité à ceux qui veulent consommer de venir consommer du contenu, ceux qui veulent partager leur savoir, de partager leur savoir, et d'être du coup reconnu aussi en tant que titulaire d'un bout du savoir. Et ça, c'est vachement important dans l'entreprise. Tout le monde est dépositaire d'un petit bout de ce savoir.
Et concrètement, je comprenne bien, je suis salarié chez Leroy Merlin, il y a une plateforme sur laquelle je peux aller et choisir des capsules qui ont été créées par d'autres collaborateurs sur tel ou tel sujet.
Exactement. Alors, en fait, sur l'application mobile, plus de la moitié des contenus ont été créés par nos collaborateurs.
D'accord.
On a beaucoup travaillé ce workflow-là parce que, historiquement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé. On était déjà sur du mobile learning, c'est-à-dire plutôt sur un aspect de consommation, rendre accessible en fait, la formation en mobilité. Et assez vite, on a eu des collaborateurs qui ont voulu créer. Donc, on a créé, et c'est mes collègues, et notamment Magali, qui est en charge de toute la partie production de contenu, de l'équipe qui produit du contenu, des stages pour onboarder nos équipes, leur apprendre à créer du contenu, leur mettre l'outil dans les mains, leur expliquer comment faire un média engageant et efficace pour partager leur savoir. Et donc, il y a tout un travail qui a été fait au sein de l'Institut de développement Leroy Merlin, le service formation situé de Leroy Merlin, pour justement engager nos équipes, les accompagner et leur permettre d'accomplir en fait leur projet de création et de partage du savoir. Simplement, ce processus, aujourd'hui, à l'échelle de 23 000, il est difficile à suivre. On imagine bien que accompagné avec des chefs de projet formation, des prestataires spécifiques dont c'est le métier, 23 000 collaborateurs, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc, le service formation a créé un certain nombre de kits qui permettent de partager en autonomie. Et dans les outils, on a créé avec les magasins, dans l'application mobile, un outil qui permet de produire son contenu aussi simplement que tu le fais 50 fois par jour sur Twitter, Instagram, LinkedIn, des petits médias, des images, des choses comme ça. Et on a embarqué en fait dans nos outils de formation des outils de montage, d'assemblage de vidéos pour découper, pour faire des incrustations de contenu, pour mettre du sous-titre ou faire des choses comme ça. Donc, et ça, on l'a fait avec des magasins, avec des pilotes, comme le magasin de Saint-Denis. Donc on a vraiment créé en fait avec nos magasins cette nouvelle modalité de partage du savoir.
C'est assez extraordinaire comme expérience. Antoine, c'est des choses que tu vois ailleurs. Pourquoi c'est important aujourd'hui pour une entreprise d'avoir cette culture-là, de faire de chaque collaborateur non seulement un apprenant, mais peut-être un producteur de savoir ?
Alors, déjà, non, ce n'est pas des choses qu'on voit ailleurs. Et je pense que la démarche qui est lancée chez Leroy Merlin, elle est hyper innovante, elle est très en avance et elle montre enfin, pour moi, l'entreprise apprenante, c'est aussi un sujet d'innovation managériale. Il y a un lien avec la culture managériale, avec l'entreprise libérée aussi. Et c'est pas pour rien si le Roi Merlin est une entreprise qui est connue pour sa culture managériale et pour le travail qu'elle fait là-dessus. Et si on retrouve ça dans la formation ensuite, c'est pas du tout un hasard. Donc là, clairement, aujourd'hui, les entreprises n'en sont, je pense, pas là. Et en fait, il y a une raison qui est simple, c'est que, en fait, c'est un sujet de légitimité. Dans beaucoup de surtout en France, hein, on a une culture du sachant, on a une culture très élitiste. On a, selon ces études, des parcours de vie et de carrière qui sont déterminés. Il n'y a pas forcément beaucoup de mobilité.
Ouais.
Et donc, qui dit, en fait, formation, entreprise apprenante, dit changer la légitimité du savoir, se dire que tout le monde est légitime et tout le monde est potentiellement un sachant, tout le monde a quelque chose à partager, à apprendre à quelqu'un d'autre. On n'est pas sur une vision hiérarchique du savoir, on est sur une vision beaucoup plus transversale et agile. Et ça demande un changement de mentalité. Quand je parlais de changement de culture au début, c'est ça en fait dont je parle. Et donc aujourd'hui, c'est pas du tout généralisé. La France est quand même pas très à l'aise avec ça. Juste pour donner un petit exemple, on a travaillé avec un client il y a quelques années qui était dans un métier avec des gens sur le terrain qui étaient des gens très débrouillards qui savaient plein de choses mais de manière très informelle. Et on s'est dit, si on veut développer la culture de la formation et l'entreprise apprenante, il va falloir valoriser le savoir de ces gens-là, les valoriser eux, créer des réseaux de partage de connaissances. Et on est venu avec cette idée qu'on a pitché à notre client qui était le DG en lui disant voilà, on va construire des solutions de formation avec les gens. Et ça a été bloqué, le projet a été annulé. Pourquoi ? Parce que la formation était placée hiérarchiquement sous la direction technique, et la direction technique a dit non, c'est aux ingénieurs de faire les formations, c'est eux qui savent ce qui est bon et pas bon.
Ouais.
Les gestes, c'est comme ça, les workflows, c'est ça, et on va quand même pas laisser, mais des gens qui n'ont pas à peine le bac, nous expliquer ce qu'il faut faire pour faire bien notre métier. Ça a été ça le feedback. Ouais. Donc là, tu vois, on n'est pas dans l'entreprise apprenante.
Non.
Voilà. Donc voilà, on en est là, hein. Il y a un vrai changement de culture.
Mais est-ce que ça commence pas à l'école, ça ? Moi j'ai un petit garçon et quand il était à l'école primaire, on a été très surpris, il y avait des après-midi de partage de connaissances, ça s'appelait comme ça. Et les enfants devaient parler d'un sujet qui les intéressait entre eux, et moi j'avais pas connu ça quand j'étais môme. Donc est-ce que ça commence pas à l'école, justement, cette notion de tout le monde peut partager quelque chose?
Si, bien sûr. Je pense que la formation continue et le monde de l'entreprise hérite énormément de ce qui s'est passé avant. En fait, des inégalités, notamment en termes d'accès à la formation et en termes de légitimité et de confiance. Là, je ne sais pas si vous avez vu ce livre qui vient de sortir d'un sociologue, Bertrand Lahire, je ne sais plus, qui a fait une étude, une énorme étude sur l'enfance. Et notamment le rapport à l'éducation, à la formation et à la légitimité. Et il montre bien comment, selon son milieu social, selon le parcours scolaire qu'on a eu, on se sent très légitime ou pas du tout légitime pour aller vers tel ou tel métier, pour aller vers telle ou telle filière. Il y a une sorte de hiérarchie informelle, hein, le fameux bac S versus le bac technologie. On voit par exemple qu'avec la réforme Parcoursup, le taux d'accès à certaines licences a beaucoup baissé pour les gens en bac techno, alors que le but c'était d'élargir l'accès. Donc on sent que les gens en bac techno ont de moins en moins d'accès à certaines formations d'enseignement supérieur. Donc bien sûr que ça on hérite d'énormément de choses. Il y a des hiérarchies plus ou moins officielles dans les parcours scolaires, dans les filières, et tout ça, ça structure la mentalité des gens, ça structure leur propre confiance en eux, confiance en leur capacité à apprendre et confiance en leur légitimité à enseigner. Et ça, on le retrouve après partout. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, quand on va voir des gens dans des entreprises et qu'on leur dit qu'il va falloir apprendre à apprendre, en fait, on crée plus de stress qu'autre chose parce que ces gens-là ont un rapport pas toujours très positif à l'éducation. Pour eux, l'éducation, ça a été avoir des mauvaises notes, être orienté, en gros, t'es pas très bon, va plutôt faire un métier technique, hein, si je caricature. Et donc, c'est compliqué de dire aux gens d'apprendre à apprendre quand leur rapport à l'apprentissage, c'est je vais te noter et je vais me faire fouetter.
Oui, la notion de note, d'évaluation, de carotte ou de bâton.
Déconstruire cette croyance-là pour la reconstruire. Et c'est ça, c'est ça l'entreprise apprenante. Et ça ne se met pas en claquant des doigts, quoi.
Et alors, comment on fait justement chez Learn Assembly quand on a face à soi une direction qui a envie mais qui ne sait pas comment, et puis des gens qui sont peut-être, comme tu l'as dit, rétifs à ce type d'ouverture? Comment est-ce qu'on arrive à construire un discours qui permet d'amener à cette réflexion-là qui est profonde, en
fait ? Alors, je sais qu'on est un salon de start-up et que normalement je devrais dire, alors c'est très simple, c'est en trois étapes avec notre produit magique, rend votre entreprise apprenante en 6 mois, ROI garanti, tous nos clients sont 100% satisfaits, mais voilà.
6 mois c'est long, 3 mois c'est mieux.
Ouais, voilà, 6 mois c'est un peu long. Non, non. je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité sur ce sujet-là et beaucoup de pragmatisme. Honnêtement, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de techno magique. C'est un ensemble de plein de choses. Donc il y a quelques, quand même quelques bonnes pratiques, voilà, des choses qui fonctionnent bien. Ouais. Déjà, un premier point, c'est de mesurer précisément. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'en mesurant ce qu'on appelle l'agilité d'apprentissage des individus et des entreprises, on arrive à du coup avoir une cartographie, un radar d'où en est l'entreprise, par famille de métier, par secteur, et donc on voit sur quoi il faut travailler. Je te donne un exemple dont on parlait avec Thibaut juste avant. On a déployé Learning Boost, notre outil, chez un de nos clients.
Oui.
Et une des questions du questionnaire qu'on pose, c'est cette année, avez-vous eu accès à une formation, une solution de développement de compétences, oui, en lien avec votre métier?
Oui. Oui.
Et on avait 60% des gens qui répondaient oui. Et quand on a présenté ce chiffre à l'entreprise, elle a sauté au plafond parce que tout ce qu'ils font, de leur point de vue, c'est évidemment en lien avec le métier,
ouais,
des gens.
Ouais.
Ils s'attendaient à ce que les gens mettent 100%. Ouais. Et non, il n'y avait que 60%. Donc ce chiffre a été hyper mal vécu. Et pourquoi est-ce que les gens ont mis 60%? C'est qu'en fait, souvent, dans les entreprises, il y a des gens qui réfléchissent à l'évolution des métiers et qui disent « Ok, ce métier va évoluer vers ça, donc on a besoin de le former.
Ouais. »
Sauf qu'ils ont oublié une petite étape, c'est que les gens en question, eux, ce lien-là, ils ne l'ont pas fait encore.
Mmh. Mmh.
Ils n'ont pas compris que, on leur a pas demandé leur avis souvent. Et donc, du coup, on forme des gens à des évolutions de métier, des évolutions de compétences. Mais ces gens-là, ils ne comprennent pas du tout le lien avec l'évolution de leur métier. Parce qu'on leur a pas demandé leur avis, on n'a pas trop construit avec eux. Et donc, ils voient pas, enfin, ils comprennent, enfin, voilà, ça, on voit bien, il y a un peu on parle pas la même langue.
Décalage.
Ouais, un gros décalage. Ouais. Donc, déjà, il y a un sujet de savoir d'où on part, cartographier. Après, il y a un sujet de culture, culture des salariés en termes d'apprentissage et culture des dirigeants. Donc, changer un peu, se déconstruire et reconstruire cette vision de l'apprentissage, de l'éducation, de la légitimité du savoir. Il y a ça. Et puis après, il y a des choses plus pratico-pratiques, du type rendre l'expérience d'apprenant, d'apprentissage, ou l'expérience de recherche de formation la plus fluide. On a des clients aujourd'hui qui ont des problèmes d'engagement dans la formation, parce qu'en fait, un collaborateur, pour trouver une formation, en gros, il va y passer 45 minutes, parce que l'expérience de recherche sur la plateforme n'est pas du tout qualitative, c'est mal tagué, on ne comprend rien, il y a une offre pléthorique, donc en fait, on ne sait même plus par où commencer, si cette formation est la bonne pour moi. Donc, il y a un vrai sujet d'arriver à personnaliser l'expérience, la fluidifier, avoir comme une logique d'intermédiaire entre une offre de formation qui est énorme et des gens qui veulent apprendre mais qui ne savent pas par où commencer, donc une sorte de conciergerie ou de médiation. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça à mettre en place et qui fonctionnent. Après, clairement, il n'y a pas de recette magique et c'est un travail à tous les niveaux, techno, culture et formation au sens ingénierie pédagogique.
Thibaut, donc ce travail, il est fait chez Leroy Merlin, il y a cette culture forte. Qu'est-ce qu'on en tire comme bénéfice au bout du bout? Est-ce que les... Ah, il est sans voix. Ça y est, j'ai réussi à le sécher.
Voilà, c'est ça.
Comment les... Ce que je veux dire, c'est que... Quels sont les bénéfices pour l'entreprise et pour les collaborateurs? Est-ce que ça, le fait de déployer, de développer leur employabilité fait qu'ils sont plus heureux, qu'ils sont plus efficaces, qu'il y a moins de turnover? Concrètement, c'est quoi le retour sur investissement pour l'entreprise?
Alors, le premier, c'est effectivement que chaque collaborateur dispose des outils de formation qui lui permettent, face à son client, d'avoir les outils pour répondre.
Ouais.
Parce que c'est aussi notre premier enjeu. Il ne faut pas oublier que nos conseillers de vente, notre cible, ce sont les conseillers de vente qui sont face aux habitants.
Tu me retires ma question suivante, donc du coup je vais la poser tout de suite et tu reviendras ensuite. Mais je me souviens d'une campagne de publicité de Leroy Merlin où on ne parlait pas du produit, on ne parlait pas des magasins, on parlait de la formation des conseillers en disant il y a 400 000 heures, je crois, de formation qui ont été. Et je me suis dit, c'est la première fois qu'on utilise finalement la formation comme un outil marketing, mais voilà, et que le client va peut-être venir chez Leroy Merlin parce qu'il sait que la personne qui va avoir face à lui est bien formée. Ça, j'ai trouvé ça très pertinent.
C'est exactement ça, c'est dans cette lignée-là. Et c'est pour ça que c'est très lié à ta question précédente. C'est que la perception qu'on a, c'est que pour bien accompagner nos clients, il faut que nos conseillers de vente soient le mieux formés possible. Et donc, pour ce faire, on a le devoir de leur proposer les meilleurs outils qui ne sont pas toujours parfaits, qu'on fait évoluer sans cesse. Et c'est, je rebondis sur ce que disait Antoine, on a des vrais enjeux aujourd'hui avec l'essor du digital, des nombres de capsules incommensurables à donner du sens à l'expérience de nos collaborateurs sur nos outils. Pourquoi? Pour qu'ils puissent gagner du temps, qu'ils ne passent pas les 45 fameuses minutes à aller chercher, à ne pas trouver peut-être aussi, parce que Antoine gentiment n'a pas évoqué ce cas-là, mais c'est aussi possible de même au bout de 45 minutes de ne pas avoir trouvé et finalement de rester un peu sur le carreau et à ne pas pouvoir se développer.
Là, il faut une formation apprendre à trouver.
C'est ça.
Mais tu rigoles.
Mais c'est un vrai sujet. Nous, on le vit.
On a formé des responsables formation au marketing de la formation. Et dans le marketing de la formation, il y a comment j'écris un descriptif de ma formation qui ressemble à une fiche produit, comment je travaille le visuel, j'ai cette logique pour donner envie, tout simplement. Comment je pense à taguer ma formation pour la rendre plus accessible.
Taguer, c'est mettre les mots-clés qui permettent de la trouver.
C'est retrouver des pratiques qu'on retrouve aujourd'hui sur du e-commerce, sur des moteurs de recherche, des logiques d'indexation de contenu.
C'est exactement la logique dans laquelle on se trouve. C'est qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, la grosse transformation qu'ont vécu les directions formation, c'est qu'avant, on était beaucoup dans la prescription, dans l'obligation. Ouais. C'est-à-dire, on s'est dit, on disait avant, on envoyait un mail, tu dois faire tel e-learning qui dure 1h30. Et fais-le avec le sourire si possible. Aujourd'hui, on est plutôt dans la séduction, dans créer l'engagement, dans donner envie aux collaborateurs de se développer. Et il y a aussi le changement de culture, il intervient aussi, et c'est ce que disait Antoine tout à l'heure, au niveau des dirigeants ou des directeurs de la formation. On a eu la chance chez Armalin d'avoir quelqu'un qui a beaucoup inspiré ça et qui nous a engagés à développer ces outils pour donner envie, pour faire en sorte que le collaborateur se connecte, il ait une offre individualisée peut-être qui lui soit proposée. Et c'est un challenge à chaque instant parce que plus tu as de contenu, plus il faut que tu rajoutes peut-être des modalités de tri, des tags, tu crées une nouvelle modalité. Donc c'est vrai que c'est des outils dont on a l'obligation, entre guillemets, de les faire évoluer sans cesse. Nous, à peu près tous les 12-18 mois, on réinvente du coup les modalités d'accès parce que on est passé de 2000 contenus à 12 000 contenus, que là on va passer de 12 000 à 25 000. Et que pour autant, il faut donner du sens à l'expérience du collaborateur pour qu'il trouve très rapidement le bon contenu qui va lui permettre d'être outillé pour accompagner les projets de nos clients jusqu'au bout et de façon correcte et être au rendez-vous de la promesse que tu évoquais tout à l'heure qui est d'accompagner correctement le projet des habitants.
Moi j'aimerais revenir sur podcast, vas-y,
tu peux tu es libre, c'est pas mon podcast, c'est le podcast de Tech France et l'heure d'assemblée est un membre de Tech France donc c'est ton podcast Antoine, sens toi libre.
Du coup je trouve qu'on aborde un sujet qui est clé et je rebondis sur ce que dit Thibaut sur cette question de l'employabilité, d'apprendre à apprendre, du sens. En fait aujourd'hui ce qu'on voit, ce qu'on observe beaucoup, c'est que pour beaucoup de gens, apprendre à apprendre, c'est pas du tout quelque chose d'évident. C'est pas quelque chose forcément qu'ils souhaitent dans leur rapport au travail. Et que par ailleurs, il y a un énorme sujet autour du financement de l'éducation et de l'accès à l'éducation. Aux États-Unis, il y a une bulle financière qui est en train de se constituer autour de la dette étudiante. Je ne sais pas si vous connaissez le modèle de l'Income Sharing Agreement qui consiste à proposer des formations gratuites et l'entreprise de formation se rémunère sur un pourcentage du salaire.
Ce qui n'est pas possible en France aujourd'hui, mais ce qui arrivera sans doute.
Mais en fait, du coup, j'ai creusé ce truc, j'ai passé un peu de temps à regarder. Alors au début, ce que je trouvais ça génial, parce que je me suis dit, mais c'est super, c'est un moyen de rendre accessible la formation à tous et de garantir une forme d'insertion professionnelle. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut savoir que l'ISA, ça a été inventé par Milton Friedman, qui est la superstar du libéralisme de l'école de Chicago, et qu'en fait, ça crée une bulle financière parce que souvent, les taux de remboursement sont variables et que parfois, tu te retrouves à payer plus cher en remboursant que si tu avais payé upfront, si tu avais payé au début ta formation. Donc ce qu'on voit, c'est que y a une manne financière qui est en train d'arriver autour de ces sujets-là. Il y a des business models qui arrivent dans tous les sens et un vrai besoin de sens, de clarification, parce que sinon les gens vont non seulement ne pas se former, mais voire même être carrément hostiles parce qu'ils auront l'impression qu'on les plume. Et que l'entreprise finalement leur dit ok, il faut vous former, c'est de votre responsabilité. Nous en tant qu'entreprise, on n'a pas en gros, on vous fournit les contenus et si vous n'y allez pas, c'est de votre faute. Je pense que c'est important qu'il y ait une co-responsabilité et on peut pas individualiser comme ça et dire c'est aux individus de tout faire. J'invite à beaucoup de prudence par rapport à ça et je trouve qu'aujourd'hui autour du thème de l'entreprise apprenante, on entend beaucoup de gens qui utilisent le terme de l'entreprise apprenante et de l'organisation apprenante pour en gros dire en gros si demain vous vous faites virer parce que vous n'êtes pas compétent, ce sera votre problème et nous on s'en lave les mains, et si on en arrive là, ce sera un petit peu catastrophique.
Alors quel est ton regard sur l'appli Mon Compte Formation justement, parce que est-ce que maintenant c'est monétisé, chacun peut être responsable de sa formation sans que le DRH n'ait son mot à dire, ça va dans le bon sens ou pas selon toi?
Alors moi je suis pas un spécialiste de ça parce qu'en fait nous on intervient peu sur ces sujets là mais dans l'esprit de la loi, oui, ça va dans le bon sens de rendre acteurs les gens de leur choix, de leur orientation, de les amener à se poser des questions sur qu'est-ce qu'une bonne formation, comment je la choisis, etc. Donc oui, et ce que tu disais Thibaut sur le fait qu'on n'est plus dans je décide pour toi, je fais de la prescription, mais je t'outille, je fais de l'empowerment. Oui, ça va dans le bon sens. Après, techniquement, sur le CPF, 500 euros, c'est un montant qui est limité. Oui. Tout n'est pas encore éligible.
Oui.
Et puis, ça reste une vision de la formation assez ancienne, c'est-à-dire que c'est de la formation formelle. Je vais à un stage de formation ou du e-learning, ouais. Mais ça n'inclut pas d'autres pratiques d'apprentissage informelles, de formation en situation de travail. La VAE reste complètement sous le radar, alors que c'est ouais. un énorme levier.
Ouais.
Donc, c'est bien. Après, ça ne va pas sauver le monde. Et par ailleurs, on en revient à la question de la culture. Ce n'est pas parce qu'il y a une appli CPF que les gens se disent que oui, ils peuvent se former, qu'ils ont des choses à apprendre et qu'ils ouais. vont trouver du boulot. Et par ailleurs, ce n'est pas parce qu'ils ont utilisé leur appli CPF pour se former et qu'ils ont fait une formation qu'ils vont trouver du boulot. Parce ouais. qu'il y a aussi un sujet du côté des recruteurs, des biais cognitifs des recruteurs, typiquement. On voit beaucoup dans les métiers du développement informatique ou de la data, où il y a beaucoup de formations en ce moment qui ouais. se créent autour de ça, et des gens en reconversion qui se forment autour de ça. Mais beaucoup d'entreprises disent « Ouais, mais en fait, ces gens-là, ils ne sont pas vraiment compétents, ils ne sont pas légitimes, ouais. donc je ne les recrute pas. Mmh. » Et parce que je veux des gens plus compétents. Ouais. D'un côté, on dit aux gens « Il va falloir être adaptable, apprendre à apprendre, être souple. » Par contre, ce qui serait bien, c'est que quand vous candidatiez, vous soyez déjà très très compétent.
Ouais. Ouais.
Là, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, il y a une petite contradiction.
Oui, c'est le fameux jeune diplômé avec de l'expérience.
Voilà. C'est ça. Mais par contre, oui, et puis pour un stage, quoi. Donc, bon, voilà. On pourra y revenir, hein, mais il y a un petit peu de rigueur intellectuelle à avoir sur ces sujets-là et inscrire ça dans des enjeux de société un peu plus larges pour comprendre de quoi on parle vraiment, en fait, derrière.
Et Thibaut, toi-même, tu t'auto-formes, tu formes, tu produis des capsules?
Alors, je m'auto-forme, je ouais. crée des capsules. J'ai créé beaucoup de capsules quand on a sorti l'application. J'avais vraiment ouais. à cœur de la tester, de l'utiliser et de proposer du contenu, notamment sur ce qui était un petit peu du contenu d'ouverture dans le cadre de la digitalisation, tu sais, mieux faire comprendre ce qu'est une API ou des choses de
ouais.
ce type-là.
Ouais.
Et je suis très engagé sur le fait de tester moi-même, si tu veux, et de faire par moi-même. Donc, effectivement, j'ai produit, je pense, une quarantaine de capsules au lancement de l'application.
J'ai l'impression qu'il y a cette culture chez Laurent Malin des makers, quoi, ceux qui font. Ah, et j'ai visité un lieu à Lille qui s'appelle le Tech Shop, pas le Sex Shop, je vais dire Sex Shop, pas du tout, il y en a à Lille sans doute, mais je ne les ai pas visités, maman, c'est pas moi, mais le Tech Shop, dis-nous un peu ce que c'est que le Tech Shop.
Bah, Tech Shop, c'est vraiment un endroit où on peut faire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a besoin de faire et où on peut apprendre à faire
ouais.
Tout. Sur tous les matériaux possibles, de l'impression 3D, ouais. travailler le cuir, travailler du verre, travailler du métal, tu peux. C'est vraiment l'idée de rendre autonomes les gens, leur permettre de réaliser ce qu'ils ont envie ouais. de faire, ce qu'ils ont besoin de réaliser dans leur quotidien. Ça peut être pour remplacer des choses, pour faire un projet, pour faire une maquette, pour fabriquer un jeu pour les enfants. Tu peux vraiment tout faire et t'es accompagné pour le faire. Donc il y a aussi cet enjeu de pédagogie qu'on va retrouver chez Tech Shop, qui est cet enjeu de t'apprendre aussi à faire par toi-même, à te rendre autonome.
Ouais.
Qu'on retrouve aussi chez Laurent Malin. Enfin, c'est vraiment un marqueur fort, si tu veux, de l'ADN de l'entreprise, qui est aussi de... Voilà, on rend les choses possibles en te rendant autonome pour le faire.
Ouais. Et c'est assez voilà. extraordinaire, celui-là. Si vous êtes du côté de Lille ou pas,
génial.
D'ailleurs, allez-y, parce que c'est un des plus grands d'Europe, hein, je crois savoir. Il y a toutes les machines, des machines-outils très lourdes.
On peut faire
ce qu'on veut. Et il y a des productions assez incroyables.
Tu peux tout fabriquer sur ouais. quasiment tous les matériaux possibles. Tu es accompagné pour le faire, et c'est ça que je trouve formidable, en fait. C'est qu'on rend accessible des machines... Ouais. que tu ne peux même pas imaginer parfois que ça existe, et on le rend possible pour toi, on t'accompagne, on te forme, on t'apprend à faire, et tu ressors avec cette fierté, et ça rejoint un peu ce qu'on se disait tout à l'heure sur pourquoi on le fait, mais parce qu'il y a un sentiment aussi d'accomplissement.
Ouais.
Quand tu as cassé quelque chose et que tu souhaites le réparer, bon, y a quelque chose de vertueux d'un point de vue environnemental déjà à chercher à réparer, à faire par toi-même. Mais il y a au-delà la fierté que tu vas avoir en sortant d'avoir fabriqué ton jouet, d'avoir permis à ton enfant de fabriquer lui-même sa petite maquette, les pièces pour faire sa maquette, qui a un vrai sentiment d'accomplissement personnel que je trouve aussi tout aussi génial ouais. finalement que le fait de fabriquer. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais.
Voilà, et donc moi je suis à fond, je suis un fan.
Tu es un maker.
Et on le retrouve aussi forcément ouais. du coup dans les outils. Donc pour répondre à ta question, oui, je fabrique du contenu, je me forme, j'apprends, je crée aussi ouais. Des formations. Jusqu'à il y a peu, je t'avouerais qu'aujourd'hui sur le digital, il y a tellement de besoins que peut-être un peu moins.
Aujourd'hui, ce podcast est un outil de formation pour les gens qui nous écoutent. Hein, voilà, on est en train de faire quelque chose. Antoine, Learn Assembly organise un événement qui s'appelle la French Touch de l'éducation. Oui, c'est ça, hein, c'est bien ça. Où notamment tu récompenses des entreprises apprenantes.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous citer comme ça des dispositifs qui sont exemplaires?
Oui, bien sûr, effectivement, je voulais en parler un petit peu tout à l'heure. D'ailleurs, il faut absolument que Laura Merlin candidate l'année prochaine. Parce que,
bah évidemment, est-ce que vous connaissiez ou pas avant?
On se suit sur les réseaux.
C'est, ouais, c'est ce que j'ai dire.
C'est ça, mais parce que Thibaut est partout. Mais voilà, ça y est, donc je suis content. Ce podcast, il sert à ça, à faire se rencontrer les gens en vrai. Voilà.
Et donc effectivement, on a lancé la première édition de notre baromètre des entreprises apprenantes.
Ouais.
Et donc l'idée était d'évaluer, de comprendre et d'observer des pratiques dans les entreprises, justement pas de formation, au sens est-ce que vous dépensez beaucoup d'argent et vous avez un gros budget, ouais, formation, mais bien de maturité, de pratiques d'apprentissage. Donc on a créé un questionnaire et on a reçu un certain nombre de candidatures. C'est Natixis qui a gagné, ouais, devant L'Oréal et SNCF Transilien. Ouais. Et justement, alors ce qui était intéressant, c'est effectivement il y avait des points saillants qui revenaient dans les meilleures candidatures en termes de maturité. Typiquement, il y a ce sujet de l'internalisation de la création de contenu. Donc ce que tu disais, Thibaut, en gros, ça va tellement vite, les contenus ont tellement une obsolescence tellement forte que il faut pouvoir maîtriser la chaîne de valeur de la production de contenu.
Oui.
Et donc les entreprises qu'on a analysées, effectivement, tendent à internaliser de plus en plus et à s'appuyer sur leurs propres équipes pour produire des contenus de formation. Ce qu'on a vu également, c'était, et à mon avis c'est intéressant parce que c'est l'effet miroir de ça, c'est un investissement fort sur les espaces d'apprentissage.
Oui.
Parce qu'en fait, les gens sont tellement noyés dans le digital, et bien sûr le digital permet énormément de choses, je suis le premier à en être convaincu, mais en fait quand on se rencontre, c'est quand même juste génial.
Oui, oui.
Et par contre, il faut que ce soit vraiment quali. À l'heure du digital, le niveau d'exigence sur la rencontre et le présentiel a un peu augmenté.
Oui.
Et donc la bonne vieille salle de formation où il n'y a pas de fenêtre, avec un paperboard déjà utilisé et,
oui,
et un ordi qui date des années 90.
Et on attend la pause café avec impatience.
Voilà, ça, voilà, en termes d'expérience d'apprentissage, ouais, on a vu mieux, quoi. Donc il y a un vrai sujet sur transformer les lieux, en les rendre plus modulaires, avoir des salles de formation qui permettent de faire de la conférence, de l'atelier, de l'échange entre pairs, de s'isoler en sous-groupe, donc, tu vois, d'avoir cette modularité. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a vu. Après, il y a... je ne vais pas revenir dans tous les chiffres, mais ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est la sensibilisation, la professionnalisation des managers.
Ouais.
Ce que ça veut dire d'être un manager qui développe les compétences et qui est un manager un peu coach. Donc nous, on a fait des projets pour des entreprises qui veulent former leurs managers à ça, à faire des vraies évaluations, à faire des feedbacks,
ouais,
à faire des plans de développement de compétences, à débriefer avec un salarié d'une formation pour voir comment il va pouvoir l'appliquer, parce que s'il ne l'applique pas, on n'en fait rien, à changer un peu la culture des managers sur ce sujet-là. Ouais. On a encore beaucoup de managers qui détestent la formation, parce que pour eux, la formation, c'est tu me retiens mes équipes,
ouais,
de la prod, hein, et donc la formation, c'est sympa, mais qui va faire le boulot, quoi. Et donc aujourd'hui, d'ailleurs, ce qu'on observe beaucoup, et j'ai souvent ça dans des discussions avec des patrons d'organismes de formation qui font du présentiel, l'annulation à 48 heures de la formation a énormément augmenté. Ça,
d'accord,
devient d'ailleurs un énorme problème. C'est-à-dire que tu peux avoir 10, 20, 30% d'annulation,
ouais,
d'une session,
ouais,
au dernier moment, parce que les gens... soit n'ont pas le temps, soit ne prennent pas le temps,
ouais,
ont de la pression managériale. Et alors là, récemment, avec les grèves, c'était catastrophique,
ouais, ouais,
d'un point de vue financier. Mais ce sujet de l'annulation, ouais, je ne sais pas si vous avez ça parfois chez Leroy Merlin, les gens annulent, quoi. Ils viennent,
ouais,
même plus à des formations parce que voilà, ils ont une pression du business qui est forte,
ouais,
et parce que c'est vrai que les modes de travail ont évolué.
En fait, l'entreprise apprenante, c'est faire passer la formation d'une contrainte à une opportunité.
Voilà, et c'est surtout arrêter de se dire que apprendre, c'est aller en formation une fois par an. Apprendre,
ouais,
c'est un processus continu.
Mmh.
C'est des habitudes, c'est des pratiques. C'est être réflexif sur ce qu'on fait, sur ces situations de travail. C'est aller mobiliser le digital. C'est aller évidemment en présentiel. C'est faire du mentorat. C'est un ensemble de pratiques.
Ouais.
Et c'est un mindset, en fait. C'est quelque chose qu'on fait au quotidien. Et apprendre, c'est pas juste aller à des formations, même si bien sûr la formation au sens classique du terme, elle est essentielle et il faut surtout pas l'enlever.
Et non. Alors, Leroy Merlin, évidemment, Natixis, L'Oréal, SNCF et d'autres, c'est des grands groupes. Est-ce que la TPE apprenante, c'est possible, ça?
Oui, moi, je pense que, ouais, c'est possible, parce que quand on crée des communautés, quand enfin, en fait, tout ça, finalement, ça ne coûte pas d'argent. Hein. Si ça fait partie de la culture d'entreprise,
ouais,
tu vois, nous, on a, chez Learn Assembly, on essaie de s'appliquer un peu à nous-mêmes ce qu'on propose. On a un budget bouquin, on a des rituels de partage d'expériences, on a des journées pédagogiques, on fait venir des intervenants. Tout ça, c'est des choses qui sont informelles et qui, en soi, ne coûtent pas beaucoup d'argent. On a un budget formation évidemment à côté et du coaching, on fait du co-développement aussi. Enfin, donc je pense que c'est accessible. Par contre, c'est vrai que la maturité dans les TPE, PME, elle est plus faible. Et voilà,
Il faut que cette culture, en tout cas, irrigue bien au-delà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé de l'école où c'était difficile, on a parlé des TPE où c'est pas encore arrivé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'innovation pédagogique, parce que c'est de ça dont il s'agit, elle est dans les entreprises aujourd'hui, dans les grandes entreprises. Et tu le sais aussi bien que moi, il y a des universités d'entreprises qui sont extraordinaires, qui forment, comme chez Laurent Merlin, des milliers de collaborateurs qui n'ont pas grand-chose à envier aux universités classiques, quoi.
Ouais, mais je pense qu'effectivement, comme maintenant la formation elle doit être impactante, il y a un sujet d'expérience collaborateur, il y a un sujet de fidélisation des talents, il y a un sujet aussi de marque employeur. Une entreprise qui forme bien, qui peut garantir aux salariés qu'ils vont s'épanouir, apprendre des choses, évoluer et être employable, que ce soit dans l'entreprise ou ailleurs, c'est une vraie promesse. Alors en France, ça l'est un peu moins, parce que le coût des études n'est pas encore trop cher, même si ça, à mon avis ça va changer avec la réforme en cours. Mais aux États-Unis, les études sont tellement chères qu'une entreprise qui dit « moi, je vous paye vos formations », mais attends, mais la promesse, elle est dingue, elle est énorme, parce que les gens sont endettés jusqu'à 45 ans pour rembourser leur dette étudiante. Et aux États-Unis, on voit des business models où justement la formation est présentée comme un « employee benefit ». Comme un avantage en nature, en quelque sorte.
Oui, c'est vrai qu'en France, on parle des tickets resto, super. Voilà. Mais les tickets formation, c'est pas encore dans la culture.
Elle fournit les tickets resto de l'intelligence et de l'apprentissage, tu vois.
Ça va être énorme. Alors, juste, Thibaut, parce qu'il y avait un truc qui m'avait étonné, là. Il y a une histoire de battle, là. Vous avez fait un truc, là. C'était quoi,
oui,
ça?
Oui, alors, toujours dans cette partie un peu viralité, si tu veux, d'apprentissage, on cherche de nouveaux modes et de formation et rendre les choses accessibles. Tu vois, s'insérer dans des usages collaborateurs ou en tout cas rendre ça ludique. C'est dans l'esprit de ce que j'expliquais tout à l'heure, un peu de la logique de e-commerce ou de créer de l'engagement avec ces nouvelles modalités. Alors, je ne sais pas si on l'a inventé. En tout cas, ce qu'on a pratiqué et ce qu'on a mis en œuvre, notamment chez nous avec l'application mobile de Bidiz, c'est ce côté augmenter le potentiel de la formation avec deux aspects. Un, c'est la battle que tu évoques, qui est d'apprendre ensemble à deux, en direct ou en différé. C'est-à-dire que dans l'application, tu as un mode qui est disponible sur quasiment toutes les capsules sur lequel tu dis, tiens, j'ai envie de me former en battle. Tu choisis un autre collaborateur, ou l'application choisit pour toi, tu sais, comme tu avais dans les jeux vidéo aléatoires. Et à ce moment, tu fais ta capsule et puis tu as l'autre collaborateur qui va recevoir une notification et qui va pouvoir se former en même temps que toi.
Est-ce que ça peut être quelqu'un qui n'est pas du tout dans le même magasin, qui est à l'autre bout de la France?
C'est ouvert sur Top France, donc en fait, ça prend au hasard dans les 23 000 utilisateurs de l'application.
Est-ce qu'on peut défier de DG en battle comme ça?
Exactement. Tu peux choisir, nominativement, de choisir. Je t'avouerais que quand j'ai lancé l'application, moi-même, j'en ai eu beaucoup. Après, le jeu, ça a été avec le directeur de la formation qui a voulu créer ça aussi. Et voilà, donc c'est vrai que... il y avait cet aspect-là. Le deuxième, c'était aussi de, notamment, on a beaucoup utilisé une autre modalité sur l'onboarding, tu sais, sur l'accueil des nouveaux collaborateurs, c'était d'utiliser le digital pour réhumaniser la formation.
D'accord.
Parce que le digital tout seul, c'est quand même pas super fun. On a tous en tête les bons vieux e-learning des années 2000, tout tristouné, tout voilà. Et l'enjeu, ça avait été d'utiliser cette application mobile qu'on a développée pour, je vais utiliser un joli mot que tu pourras punchliner si tu le souhaites, mais réenchanter l'expérience d'apprentissage.
Ah, mais c'est beau ça, réenchanter. Voilà.
Réenchanter.
Je suis d'une génération réenchantée.
Ouais, exactement, voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment de réenchanter en fait cette expérience. C'est de dire on apprend ensemble grâce au digital. Et là, je trouve que on est, pour moi, pas loin de l'idéal. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu, on n'a pas à choisir entre le digital et l'humain.
Ouais.
C'est on utilise le digital pour faire se rencontrer les gens, pour les faire apprendre ensemble. Et c'est tout bête, mais dans la formation, que ce soit côté LMS ou côté application mobile, on a créé des fonctionnalités qui s'appellent apprendre ensemble. Juste pour favoriser en fait l'apprentissage collectif ensemble grâce aux outils numériques. Et je trouve que c'est une des plus belles illustrations en fait, de l'utilisation de l'outil digital pour réhumaniser cette formation.
Très chouette. Non, mais c'est, il ne faut pas opposer digital et humain, parce que c'est exactement
c'est au service
complémentaire.
Je pense que c'est un moyen aussi de réengager sur des formations qui parfois étaient un peu vieillissantes, de dépoussiérer ce modèle de formation présentiel parfois et de proposer d'autres modèles de formation peut-être plus courts, plus instantanés et peut-être plus efficaces, parce qu'il y a un investissement, un engagement, si tu veux, dans ces formations-là.
Est-ce que ce format battle a pu être utilisé pour draguer, par exemple, un collaborateur, une collaboratrice qui est très éloignée?
Je ne suis pas autorisé à en parler.
Il se passe des choses. Oh là là, le roi Merlin, il se passe des choses. Au rayon, bricolage. Qu'est-ce que tu dis, Antoine?
Un levier d'engagement dans la formation.
Bah oui, évidemment. On a tous été amoureux un jour d'une maîtresse, d'une prof de maths. Voilà. hein, Antoine ? Tu m'en parlais l'autre jour, bien. Bon, allez, on va se quitter sur ces petits secrets d'alcool. Merci à tous les deux. Ça a été un vrai plaisir de vous avoir. Thibaut, j'étais ravi de faire ta connaissance en vrai, là, de pouvoir te toucher. Merci beaucoup. Le mot de la fin ? Et ben voilà, je l'ai séché une deuxième fois. Ah là là. Antoine, ça te laisse le temps de réfléchir. Antoine, ton mot de la fin.
Figital.
Ah, ça y est, il s'est réveillé.
Figital.
Figital.
Le okay. Digital au service de l'expérience physique d'apprentissage.
Figital. Je sens qu'on va faire un podcast. Je regarde Maxime Maton, mon ami producteur, spécialiste, inventeur de ce podcast. Figital. P-H-Y. Hein. C'est pas avec un F. Note-le parce qu'on fera un podcast là-dessus. Antoine.
Non, j'ai pas le mot de la fin, parce que si je me lance dans un mot de la fin, en fait, je vais me lancer dans un paragraphe de la fin et je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais en tout cas, merci d'avoir invité. Je suis content d'avoir pu partager ça avec vous.
Ben merci à tous les deux. On continue à aller vous balader dans les allées du salon, notamment toi, Thibaut. Il y a plein d'entreprises, de start-up qui ont plein de trucs à te vendre. Tu vas voir. Voilà. Et puis Antoine, tu as un stand là, j'imagine.
Un stand,
tu as un stand. Aussi, ouais. Voilà, ils t'attendent. Il y a la queue devant le stand de Learn Assembly. Merci encore une fois à tous les deux. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Learning Technology qui nous a permis d'être en direct aujourd'hui depuis le salon. Il y a d'autres podcasts qui vont venir. Merci à tous de nous écouter. Mettez des bonnes notes à ce podcast si vous l'avez aimé. Mettez des étoiles. Pour l'instant, c'est le 5 Stars Podcast. On n'a pas une seule appréciation au-dessous de 5 étoiles. C'est extraordinaire. Et on espère, on ne doute pas que ça va continuer. On est toujours ici en direct de la Porte de Versailles. Merci Maxime et à l'agence Matoons pour la production de ce podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.
À bientôt.
Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet. Merci à Maxime Maton de l'agence Matoons pour la production de ce podcast et à notre journaliste Eva Mignot pour la préparation des interviews.